les podcasts sciences humaines de Radio qui pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Bref, c'est parti comme ça, et puis maintenant c'est exponentiel. Mais exponentiel depuis le 18e siècle. C'est-à-dire, vous avez un truc qui monte comme ça. C'est bien pour ça, le mur que j'évoquais tout à l'heure, il est là, c'est que maintenant, c'est emballé. La machine est emballée à cause de nos capacités incroyables d'innovation culturelle. Mais du coup, ça demande une énergie, au sens énergie fossile, et de fou, quoi. Parce qu'il faut extraire des trucs, des minerais, des choses. C'est une appropriation du vivant et du minéralogique, etc., c'est détruit beaucoup de choses. Voilà. Donc la longévité, c'est pas une petite propriété biologique qui serait séparée, dont les sociologues ou les anthropologues pourraient ne pas s'intéresser. Alors le deuxième aspect, alors là, qui est plus central, parce que j'essaie de développer, mais encore une fois, c'est pas le seul, hein, c'est la matricialité secondaire. Alors là, ça demande un tout petit peu de temps, je vais essayer de dire des choses de la manière la plus simple possible. Si vous connaissez un peu ce qui se dit sur les oiseaux qu'on appelle nidifuges, et des oiseaux qui sont nidicoles. Alors, nidifuges et nidicoles, ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui restent, quand ils sont nidicoles, ils restent longtemps au nid. Fuge, c'est... On va dire fuite, c'est pédagogiquement. Donc, ils restent longtemps au nid. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très dépendants de leurs parents. Donc, ils attendent... la béquille, ils ne bougent pas et ils restent, ils accompagnent longtemps leurs parents, ils apprennent à voler aussi, ils apprennent à détecter des trucs pour manger. Hein. Chez les griffes, par exemple, c'est un exemple que je donne, si vous enlevez les petits de leurs parents, ils ne savent pas survivre parce qu'il faut apprendre à détecter les autres fourmis, à se cacher dans des fourrés, dans des buissons, dans des haies. Alors, le fait d'avoir enlevé des haies empêche les griffes d'exister, et plein d'oiseaux, mais bon, ils apprennent tout ça. Et si vous les déconnectez du réseau d'apprentissage social dans lequel ils sont, c'est un peu comme des humains. On vous dit toujours l'enfant sauvage, mais les petits sauvages. Dans la nature, les oiseaux sont exactement. Ne peuvent pas survivre s'ils n'ont pas appris un certain nombre de choses. Mais il y a des espèces qu'on appelle précocielles et d'autres altricielles. Nidifuges qui partent assez rapidement, ils sont compétents, ils arrivent à se débrouiller, etc., au bout de très peu de temps. Et d'autres qui sont nidicoles ou altricielles, c'est-à-dire qui restent longtemps, qui ont besoin du tutoring des parents pour survivre. Alors, cette altricialité, elle est surtout présente. On la voit chez les oiseaux, certaines espèces d'oiseaux. On la voit surtout chez les mammifères, elle est particulièrement importante. Encore plus importante chez les primates. Et parmi les primates, nous sommes les champions de la matricialité dite secondaire. Bon, pour aller vite, et alors il faut se méfier parce qu'évidemment il y a des effets aussi culturels récents, mais aujourd'hui on est à un degré d'altricialité secondaire énorme puisque. Les jeunes ne sont pas dépendants avant un âge très avancé. Alors, physiologiquement déjà, puisque vous naissez et vous continuez à vous développer, vous avez un cerveau qui continue à se développer, la maturité sexuelle est très tardive. Alors, je dis ça devant un parterre de collégiennes qui vont regarder, tu vois, 12 ans. Oui, mais au niveau de la comparaison interespèces, attendre 12 ans. Pour se reproduire, c'est un risque considérable pour l'espèce. Parce qu'il faut protéger la personne jusqu'à ce qu'elle puisse se reproduire, pour que l'espèce puisse avoir une chance de survie. Donc, ça a supposé beaucoup d'altruisme, beaucoup d'entraide, pour protéger des enfants qui n'étaient pas encore en mesure de reproduire le groupe et l'espèce. Donc, il y a un enjeu considérable. Nous avons un lent développement, c'est une lenteur de développement, et une dépendance à l'égard des parents. Alors là, vous allez me dire, bon, très bien, ça amène l'altruisme, ça amène l'entraide, les gens, il y a du soin parental, et dit alloparental, c'est-à-dire que en fait, c'est collectif. Dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu un travail collectif autour des enfants. Ce n'est pas juste la... par exemple, vous prenez le modèle chimpanzé, la femelle s'occupe de son petit, et alors s'il y a quelqu'un qui s'approche, même l'autre femelle, ça ne va pas du tout. Elles sont extrêmement exclusives, c'est des mères qui sont fusionnées avec leur petit, et personne ne doit s'approcher. L'humanité a dû s'adapter à quelque chose, enfin, tout le monde a eu un... Non, pas tout le monde, j'imagine ici, mais a vu ce que c'était qu'un bébé, on va dire ça comme ça, au plus large. C'est très, très prenant, c'est très chronophage de s'occuper d'un bébé humain. Ça rend fou. Si vous êtes seul pour vous occuper d'un bébé, vous savez, il y a plein de cas d'infanticide qui sont liés à une désespérance de mère la plupart du temps, parce que c'est des mères qui généralement se retrouvent seules avec leur bébé. C'est extrêmement épuisant mentalement, c'est comme les sectes, hein, vous savez, les sectes, pour vous conditionner, vous empêchent de dormir. Les bébés arrivent à faire ça très bien. Ils vous avez le sommeil détruit, les parents qui vous disent « moi, il fait ses nuits ». Vous avez envie de les tuer, c'est tellement rare. Et voilà, c'est très étonnant. La plupart du temps, c'est un travail énorme, il faut des relais. Et on voit apparaître très tôt dans l'histoire le rôle des grands-mères, le rôle de plein d'autres mères. Mais vous trouvez ça chez d'autres espèces. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les crèches chez les dauphins. C'est des femelles qui s'occupent collectivement des petits. Et quand il y en a une qui va plonger pour aller chercher à manger, pour donner aux petits, les autres sont là pour se réveiller. Voilà. Donc il y a un travail collectif pour protéger les petits pendant que, voilà, on ne peut pas laisser un petit. Et c'est comme ça aussi chez les oiseaux. Les mâles vont aller chercher à manger parce que la femelle, elle ne peut pas laisser les petits. Ils se font bouffer en très peu de temps par des serpents, par d'autres oiseaux, etc. Donc il y a une surveillance constante, ça suppose de la solidarité, ça suppose de la coopération, mais ça suppose aussi, et ça on l'a beaucoup oublié, un rapport de dépendance. Et ce rapport de dépendance parent-enfant, qui est particulièrement fort dans l'espèce humaine, ce sont des rapports de domination. Alors ce terme fait peur un peu, mais les parents ont une puissance extraordinaire par rapport aux petits. Une puissance physique, mais aussi une puissance culturelle. C'est-à-dire, un bébé ne peut pas survivre sans ses parents. Donc il faut qu'il y ait des parents qui soient. Donc la puissance, elle est objective. Vous êtes plus fort, vous êtes autonome, mais il faut rajouter aussi, vous avez une culture qui vous permet de vous adapter à la société dans laquelle vous êtes, alors qu'eux, ils n'ont rien. Donc vous laissez, en tant qu'humain, doublement dépendant. Dépendant physiologiquement, mais dépendant culturellement. Et je dis même que la dépendance, elle continue vers une altricialité permanente, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés tellement complexes avec une division du travail telle que nous sommes toujours dépendants de tonnes de gens, voilà, auxquels on doit avoir recours si on veut résoudre des problèmes. Enfin, les gens qui savent réparer un téléphone, une voiture, leur micro-ondes, savoir comment régler un problème juridique, etc.
Faire pousser des légumes.
Faire pousser, oui, on peut partir de là, effectivement. c'est la plupart du temps, les gens ne l'ont pas, donc ils dépendent du savoir, de l'expérience d'autres personnes. Et ça, c'est très particulier à l'humain. Pendant très longtemps, dans plein d'espèces, chaque individu pouvait se débrouiller un peu seul. Et d'ailleurs, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y a beaucoup moins de division du travail que dans nos sociétés. Donc, nous dépendons, et ce sont des rapports de domination. Il y a des gens qui nous dominent. L'enseignant domine ses élèves. Ils savent, les autres ne savent pas. Comment on sait qu'il les domine? Il les sanctionne, il les évalue. Il leur dit c'est bien ce que tu as fait, et puis s'ils sont vraiment pas contents, on peut les sortir du système scolaire, etc. Ça, c'est de la domination. Mais les parents qui disent les enfants, alors on voit bien que c'est un rapport de domination, puisque quand ils commencent à vouloir s'émanciper, c'est-à-dire l'adolescence, c'est la crise. Parce parce que la domination commence à être un peu travaillée. Quoi. La balance des pouvoirs est en train de se rééquilibrer. Et quand vous avez affaire à un adolescent qui fait 1m75 et qui dit « Non, je ne veux pas », voilà, là, c'est le début de... Et pendant l'enfance, c'était... mon fils chéri, on va faire... On va t'inscrire au judo, hein. Oui, etc. Bon, ils acceptent avec retour, parce que de toute façon, ils n'ont aucune capacité de choix au départ, mais vraiment aucune. Alors ça, c'est l'illusion des parents de classe moyenne, hein, qu'ils ont le choix. Non, ils ont le choix de leur milieu, ils ont le choix de leur classe, de leur fraction de classe, etc. Non, mais ils font ce qu'on leur dit de faire, en fait. Hein. Les statistiques le prouvent. Les pratiques sportives, les pratiques de loisirs, les pratiques culturelles, tout ce que vous voulez. Même la République politique, je pense que c'est très bien, familialement. Et donc vous avez comme ça une dépendance maximale. Mais alors, il y a un effet massif sur l'ensemble des sociétés humaines. Il y a des grands faits de l'anthropologie qui sont reliés en fait à cette propriété de la spécialité secondaire. C'est le fait que toutes les premières sociétés connues de chasseurs-cueilleurs mobiles ou qui commencent à être sédentaires, etc., vous avez une domination des vieux sur les jeunes. Tous les anthropologues disent s'il y a deux types de domination qu'on observe dans toutes les sociétés, c'est la domination des hommes sur les femmes, malheureusement, mais elle est écrasante, et la domination des mâles, et la domination des vieux sur les jeunes.
Là, dans les deux cas, tu dis que c'est des invariants anthropologiques.
Oui. Le
constat est sans appel.
Gérontocratie, c'est, vous avez les aborigènes d'Australie, qui sont la forme sans doute la plus proche de ce qui a existé au paléolithique supérieur, c'est la gérontocratie, les vieux dominent. Mais les sociétés lignagères africaines, les vieux dominent, c'est les conseils de sages, etc. Vous avez toujours des vieux, c'est généralement des vieux mâles qui dominent, mais vous avez une domination écrasante des vieux. Et aujourd'hui, on peut se dire, oh, ça a tellement changé, il y a de l'agisme, il y a etc. Bon, non. Regardez les moyennes d'âge dans tous les pays possibles, des assemblées nationales, des parlements, des sénats, des académies, de tout ce que vous voulez, où les plus grosses fortunes, les entreprises les plus riches, etc., c'est les plus vieux qui les possèdent. Voilà. Donc, voilà. Premier truc, c'est qu'on voit une écrasante domination des vieux sur les jeunes, qui est un effet de cette domination parentale liée à cette propriété. C'est-à-dire que c'est pas, personne n'a choisi ça. C'est pas les vieux qui ont décidé, bon, ouais, hein, les jeunes, on va les mettre mal, là, ils vont morfler, on va les dominer. Mais non, c'est avec beaucoup de bienveillance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut les aider, les petits. Ils savent pas, etc. Et cette situation s'installe. Et sur cette base de cette dépendance liée à une situation biologique, vous avez une situation sociale qui s'installe et qui a du mal à être remise en question. Donc vous avez ça. Mais là, deuxième effet, vous avez une déclinaison de ça avec un truc qui est connu depuis très longtemps chez les anthropologues, c'est la domination des aînés sur les cadets. Mais c'est la même chose. Les aînés dominent les cadets dans de très nombreuses sociétés. Les historiens disent, il n'y a pas très longtemps, que les aînés dominaient encore très largement les cadets. Ce qui a joué en faveur des cadets, c'est le système scolaire. Je n'aurais pas le temps de trop d'expliquer, mais si vous avez lu « Bal des célibataires » de Pierre Bourdieu, alors lui, il saisit une bonne partie des problèmes, mais à mon avis, pas tout. Notamment le fait que le système scolaire va jouer un rôle pour contrarier cette logique du privilège, puisque les cadets, au contraire, au moment où l'agriculture devient une activité beaucoup moins intéressante que ça, les cadets, qui n'héritent pas, donc jusque-là c'était une malédiction, et ça devient de plus en plus un cadeau empoisonné. Les aînés, ils sont obligés d'hériter d'une exploitation, mais qui devient de moins en moins intéressante socialement. Et le truc de Bourdieu sur le bal des célibataires, c'est les aînés qui, jusque-là, avaient la main, comme on dit, en fait, qui intéressent plus les jeunes filles. Dans un bal, les jeunes filles, elles vont vers qui ? Les gardes de la vie. Et notamment, les cadets qui sont partis à la ville pour être ouvriers, employés, etc. Mais ils ont des vacances, ils ont un style de vie beaucoup plus attractif, etc. etc. Bon, ça a commencé à travailler, mais vous voyez, ça c'est des années 50, 60, voilà, c'est très très récent dans l'histoire de l'humanité.
Les podcasts Sciences Humaines de Radio Kipik. Rencontres, conférences, débats, table ronde, entretien, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Donc, droit d'aînesse, privilège des aînés sur les cadets, etc. Mais on le retrouve encore dans les lignages africains, il y a toujours des lignages qui dominent d'autres lignages. Et qu'est-ce qui est le principe ? C'est on avait des ancêtres qui étaient là avant. Donc vous avez un privilège de ceux qui sont arrivés avant sur ceux qui sont arrivés après. Et ça continue à jouer sur les lignages dans ces sociétés-là. Ça donne une priorité à ce qui est antérieur par rapport au postérieur. J'en ai fait une loi, c'est une des lois qui est formulée dans l'ouvrage. À chaque fois que vous pouvez mentionner votre antériorité, vous avez une chance de dominer ceux qui sont arrivés après. Bon, toute ressemblance avec des situations existantes, ceux qui arrivent après, des étrangers, etc. Ben, voilà, c'est un principe de nous, on est légitimement là, les autres, ça pose problème. Et ça continue avec les formes du magico-religieux. C'est-à-dire, on se rend compte que la forme rapport parent-enfant, avec un protecteur qui aide, qui soutient, qui guide, mais qui peut aussi sanctionner, etc., ben c'est le rapport que les humains ont inventé dans le rapport à leurs entités supranaturelles, à leurs esprits, esprits des ancêtres, esprits de la nature, divinité, Dieu, c'est-à-dire à chaque fois, c'est pas compliqué, il y a un anthropologue qui dit dans les sociétés dites primitives, dès qu'il y a un risque sur la survie, on fait un rituel. On demande aux esprits de nous aider. C'est quoi les problèmes ? Bah, accouchement, rituel. On met même des amulettes autour Alors, c'est pas pour l'accouchement, c'est juste après, quand il est né, pour le protéger, on met une amulette. Vous avez un problème risque, mauvaise récolte, on fait un rituel et on demande aux esprits de la nature, aux esprits des ancêtres d'être cléments, d'être bienveillants, etc. Et comme ça, pour tout. Il y a une guerre, il faut qu'on gagne. Évidemment, chaque société fait exactement la même chose. À la fin, tout le monde est dans la même situation, mais tout le monde cherche une protection. Qu'elle soit une protection réelle, comme la relation parent-enfant, la relation entre ceux qui ont le pouvoir politique aussi, par rapport aux autres, on demande à des chefs de garantir la prospérité du groupe. Je pourrais même vous prendre des discours de Macron en pleine pandémie, où il rejoue toujours ça. Mais c'est un truc vieux comme le monde, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à la fois, à chaque fois, c'est « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous protéger, nous allons... » D'ailleurs, nous sommes en guerre, il y avait l'idée de « On va se protéger contre un ennemi, et je suis le garant de cette prospérité, de cette sécurité, etc. etc. » Vous avez vu où ça nous mène. Mais ces justifications sont toujours liées à des volontés de se protéger. Si on ne pourrait pas avoir... Mais dans l'histoire, il y a eu des dictateurs, il y en aura encore. En fait, à chaque fois, les gens sont obligés de mentir. Même les pires dictateurs, ils continuent à dire « Je le fais pour le bien de mon peuple. Je le fais pour la sécurité, pour la prospérité. » pour garantir la cohésion du groupe, l'harmonie, la paix, etc. Ça, c'est un truc récurrent dans l'histoire de l'humanité. Donc, cette altricialité secondaire, qui est une propriété biologique, qui est issue d'un long processus d'évolution biologique, en fait, a des conséquences, et des conséquences massives dans la structuration de nos sociétés. Alors, évidemment, qui ne se voit pas immédiatement, parce que il y a tellement de formes de variation de ça. Arriver à retrouver le chef Mambiquara, étudié, un chef amazonien, étudié par Lévi-Strauss, le même type, profondément, d'attitude et de demande de la part du groupe que dans les États modernes, c'est pas évident, et pourtant on le voit. Et même Lévi-Strauss a vu ça. Il y a quelques textes où il dit, au fond, entre les politiques sociales de nos États et ce que l'on demande à un chef Mambiquara, on a de profondes similitudes. Parce qu'on demande toujours à celui qui dirige le groupe, comme à papa-maman, aide-nous, protège-moi, sécurise-moi, soulage-moi, cajole-moi, etc., etc. Reconnais-moi aussi, parce que ça aussi c'est très important. Mais voilà, donc vous voyez que là, le rapport entre biologique et social, biologique et culturel, c'est un peu, on peut prendre l'exemple, l'image de l'anneau de Möbius, c'est-à-dire si vous avez une bandelette, avec un côté c'est le biologique et de l'autre côté le social ou le culturel d'ailleurs, l'anneau de Möbius c'est vous tordez et vous faites vous réunissez les deux et vous passez d'une face à l'autre en permanence. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas... ça fait longtemps que les sciences sociales vivent sur une partition entre d'un côté le biologique et de l'autre côté le culturel ou le social. Les animaux, comme on dit, hein, parce que nous sommes des animaux, en fait, mais on dit les animaux, eux, ils sont du côté du biologique et nous, du côté du social. Et en faisant ce genre de partition, et en faisant de l'humanité une exception dans l'ensemble des espèces, en fait, on a perdu tout ce qui nous permettait de comprendre véritablement notre aventure collective et la structuration de nos modes de vie. Et qui varie tellement que on ne peut pas voir immédiatement les invariants. Là, j'ai été très long, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que sur l'altricialité...
L'altricialité, il faut bien la comprendre, et puis voilà, elle n'arrive pas tout de suite, il faut dérouler un peu la pensée. Alors, on va quand même, j'aimerais bien qu'on laisse la place à quelques questions, après je dis quelques mots pour resserrer un peu, je crois que, et tu me reprends si je me trompe, mais... moi, ce qui m'a vraiment paru important dans ta thèse, c'est que cette idée d'altricialité secondaire, donc en gros, ce bébé humain qui naît à ce point-là, vulnérable et fragile, et qui meurt, en fait, si on ne s'occupe pas de lui, cette propriété d'altricialité secondaire, elle a des corrélats sociaux très difficiles à comprendre, quoi. Des corrélats sociaux qui pèsent de tout leur poids sur l'organisation sociale, et un peu le tour de force de ta pensée de dire... Effectivement, il y a ce bébé implique, ce bébé immature, ce bébé vulnérable implique du soin, implique de la protection, implique de l'altruisme. Et le revers de ça, c'est vraiment là le tour de force de la pensée, c'est de dépendance ne va pas sans domination. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, la relation parent-enfant dans ta thèse devient un peu la relation matrice. La relation matrice des relations de domination et finalement énormément de formes de domination seraient en fait une déclinaison de cette relation un peu zéro de domination, quoi, de ce truc qui est incontrôlable puisque de façon transhistorique, transculturelle, on ne connaît pas de société où ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents, ce sont les enfants qui dominent leurs parents, ça n'est jamais arrivé. Donc là, on arrive un peu à ce qu'on appelle un butoir de la pensée, un butoir de l'action. Quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, on n'a pas dit, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la domination homme-femme, parce que c'est quand même, je trouve, aussi un des gros enjeux de ton livre, d'aller regarder comment fonctionne cette relation de domination homme sur femme, enfin, les hommes sur les femmes en détail. Elle est aussi, tu le rappelles, un invariant anthropologique. Alors, si je peux en dire quelque chose en deux mots pour aussi laisser la place aux questions, et tu me reprends si je me trompe, mais tu dis quand même quelque chose de très intéressant. Tu dis, attendez, il faut un peu sortir de l'analyse de cette domination des hommes sur les femmes au prisme de la modernité tardive. Pendant toute l'histoire de l'humanité, on peut tomber enceinte tous les ans. Pour que le bébé survive, il faut l'allaiter pendant 18 mois au moins. Et l'accouchement, c'est le moment où on meurt. C'est ça, en fait, ce qui se passe pendant toute l'histoire de l'humanité rendue au point de modernité tardive. Et donc tu dis, bon, en fait, ok, ça laisse quand même vachement moins de marge de manœuvre pour investir dans nos champs sociaux que les hommes n'ont.
Oui, c'est ça. Alors après, je veux pas... C'est, ça peut... Dit comme ça, ça peut paraître complètement désespérant. Hein. Il y a une vente de cordes. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que il faut être le plus lucide possible sur le fonctionnement de nos sociétés. Et ça, c'est un point qui est terrible. Parce que, déjà, il faut se mettre d'accord sur le constat de l'écrasante majorité des situations de domination masculine. Vous avez encore des mythes du matriarcat primordial, etc. Et ça, tous les préhistoriens et anthropologues sérieux disent que ça n'a jamais existé. Alors, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Oui, mais il y a un institut qui est consacré à l'étude du matriarcat en Allemagne, etc. » Ben oui, mais c'est l'idéologie la plus pure. Et c'est bien dommage, parce que, évidemment, que ce sont des féministes qui font ça, mais qu'on ne combat pas. On ne mène pas un combat légitime avec de mauvais arguments scientifiques. Parce que le jour où tout le monde vous dit « mais non, c'est pas une preuve », parce qu'évidemment, on va chercher la possibilité qu'il y ait une domination des femmes sur les hommes pour dire « vous voyez, c'est culturel et on peut renverser le truc, etc. » Oui, on peut renverser le truc. Moi, je suis absolument d'accord. Et je pense que s'il y a une domination qui peut... disparaître à un horizon pas trop éloigné, c'est bien celle-là. Alors que la domination des vieux sur les jeunes et de tous les effets que ça a mentionnés tout à l'heure, là, le problème est beaucoup plus grave. Et donc, on peut être d'accord sur le fait que c'est pas inscrit dans le marbre, mais il y a quand même un constat d'une domination massive. Pas de matriarcat. Il y a des situations de rééquilibrage, il y a des sociétés particulières où les femmes reprennent du pouvoir sur les hommes. Alors ça a été en partie étudié. Un grand anthropologue comme Alain Testard avait montré qu'il y avait des contre-exemples, notamment de sociétés où les hommes partaient longtemps à la guerre et du coup les femmes se mettaient à avoir des positions. Position de pouvoir, politique, elle se défendait, le groupe continuait à être attaqué, etc. Et donc, vous aviez des femmes qui avaient des positions de pouvoir. De manière très très générale, dans l'histoire de l'humanité, les positions politiques et de guerre, surtout, sont quasi exclusivement masculines. C'est effrayant de régularité. Et de la même façon, mais un peu moins prononcé sur les fonctions magico-religieuses. Bon, il y a un peu plus de femmes, chamanes, voilà, mais le grand nombre, ce sont des hommes. Donc, il faut d'abord se mettre d'accord sur un constat. Après, si on est d'accord sur le constat, alors il faut affronter le problème. Et quand j'ai des collègues en sociologie qui font des études de genre, moi, que je trouve intéressant, que j'ai pratiqué, etc., puisqu'on peut étudier la construction culturelle, un certain nombre de choses, dans l'éducation familiale, dans les habitudes, est-ce qu'on dit à une petite « mais vas-y, pleure, ma chérie, t'es un garçon », on va lui dire « bah non, t'as un garçon, il faut pas pleurer, un garçon, ça pleure pas », etc. Ça, c'est du genre. Ça, c'est clairement de la culture, et vous pouvez modifier ça. C'est tout à fait possible, et c'est en cours, dans plein de milieux. C'est pas non plus massif, hein, faut pas imaginer. Il y a les étudiants qui peuvent penser ça. Hein. Le monde social, ça se réduit pas à des classes moyennes et des classes supérieures. Donc on est loin encore du compte, mais enfin ça peut progresser. Mais tout n'est pas lié simplement à des questions culturelles. Sinon, on serait obligé de se dire, mais alors, comment ça se fait que, culturellement, alors depuis le début, on a décidé que, qui a décidé, d'ailleurs, que c'était les hommes qui allaient gouverner les femmes, qui allaient dominer dans tous les secteurs de l'activité. C'est quand même un peu bizarre.
Les podcasts Sciences Humaines de Radio Qui Pique. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
Si on sort un peu le nez de l'espèce humaine et qu'on regarde par exemple chez les mammifères, alors ne parlons pas de domination, c'est un peu compliqué, mais prenons la question de la division du travail. Qui s'occupe des petits? 95% des mammifères, ce sont les femelles. 95%. Alors, vous avez quelques papas ouistiti qui sont formidables. Il y a plein de cas de mâles qui sont hyper. C'est très beau. C'est un très beau reportage sur Arte avec une collègue avec qui je suis en contact, Judith Burkhardt, qui travaille sur des petits primates. Où les papas sont des papas gâteaux, ils sont là toujours à protéger. Ils ont un comportement qu'on appellerait assez volontiers féminin ou maternel. C'est un comportement de soins parental, hein, tout simplement. Mais dans l'écrasante majorité, c'est les femelles qui s'occupent. Et pourquoi? Parce qu'au départ, vous avez un lien très très fort, c'est les femmes qui ont la gestation. Et c'est les femmes qui allaitent. Alors vous me dites, la plupart du temps, on me dit, ouais, mais enfin, allaiter, le papa, il peut donner le biberon. Alors, posez-vous la question, à partir de quand on a inventé le biberon? Ben oui. C'est hyper récent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que sur 300 000 ans d'Homo sapiens, je ne vous parle pas du genre homo, hein, c'est 3 millions à peu près, d'années, vous avez. Une force énorme de cette situation où vous ne pouvez pas faire vivre votre enfant, nourrir votre enfant, en dehors du lait maternel. Donc vous avez un lien complètement fusionnel chez les mammifères, et c'est ça qui fait la première division du travail. C'est là-dessus que commencent à se greffer des choses. Pendant que la mère est en train de s'occuper de son petit, de le porter, de lui donner à manger, etc., il faut bien nourrir le groupe. C'est comme les oiseaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le mâle qui va chercher à manger, qui des fois protège, etc. C'est pas tous les mâles. Hein. Il y a plutôt une meilleure répartition des tâches chez les oiseaux, tout simplement parce que la femelle, elle pond, elle fait pas de la gestion, enfin c'est des ovipares, pas des vivipares. Donc cette propriété biologique fait qu'on voit une division du travail beaucoup plus équilibrée chez les oiseaux. Mais il y a quand même, parce que c'est la femelle qui a pondu, c'est un peu plus elle qui couve, et le mâle qui va chercher à manger pour amener à la femelle. Et en plus, la plupart des espèces d'oiseaux sont monogames. Enfin, monogames officiellement. Parce qu'on sait maintenant par la génétique que... Bon. Il y a de la négociation possible. Mais, grosso modo... Les mâles reconnaissent leurs petits, et ils reviennent au nid, et ils nourrissent la femelle, et puis les petits, etc. Bon, donc vous avez un truc qui est plombant chez les mammifères. Nous sommes des mammifères. Nous venons de cette longue histoire. 95% quand même des espèces où c'est les femelles qui s'occupent des petits. Donc il y a la division du travail. Il faut continuer à protéger le groupe. Donc, par exemple, pendant que vous vous occupez des petits. Vous voyez chez les mammifères, vous voyez chez les dauphins, les femelles, comme je disais tout à l'heure, elles font de la crèche. Et vous avez autour les mâles qui tournent et qui protègent le groupe. Donc les fonctions guerrières, ça fait longtemps que chez les mammifères, elles sont du côté des hommes, des mâles. Et c'est la même chose pour les lions. Les lions, ils ne font pas grand-chose. Hein. Les lions mâles, ils attendent, ils protègent. Dès que c'est les femelles qui chassent, et eux, ils vont récupérer à manger. C'est une vie assez sympa.
Est-ce qu'on peut peut-être prendre une
question? Mais tout ça pour dire que ces rapports... Non, mais Juste le point, c'est que il faut toujours faire attention de ne pas regarder l'histoire de l'humanité avec les yeux récents que nous avons. Et une des propriétés humaines, c'est d'avoir la culture qui permet... C'est la première espèce de mammifère qui commence à se sortir du lien mère-enfant. On a inventé la possibilité d'une déliaison entre la mère et l'enfant ou d'un assouplissement du lien. Par le biberon, par les maternisés, par la contraception, avant ça, une femme n'est pas obligée d'être mère. Voilà, c'est comme ça. Et puis, vous avez plein de choses qui viennent desserrer ce lien, alors que c'est fatal chez toutes les espèces de mammifères, qui n'ont pas d'artefacts, qui n'ont pas de moyens de faire autrement pour élever les petits. Donc c'est des effets de division du travail autour de cette contrainte-là qui a amené progressivement à cette situation qui n'est pas une décision des hommes qui décident de maltraiter les femmes, etc. Mais ça a conduit à ça. Ça a conduit à ça. Si on ne prend pas conscience de ces grandes contraintes-là, je pense qu'on continuera à penser que c'est qu'une affaire d'éducation, et je peux vous assurer que ce n'est pas une question d'éducation. Vous pourrez avoir toute la bonne volonté du monde, dire à votre petit, mais t'es garçon, mais tu peux porter du rose, tu peux faire un métier dit de femme, etc. Ça ne bougera pas forcément. C'est sur des aspects beaucoup plus fondamentaux qu'il faut travailler. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, alors moi je le vois apparaître dans les milieux féministes, beaucoup de gens, beaucoup de femmes disent c'est la réappropriation du corps par les femmes, de leur corps, qui est au cœur des combats féministes. Donc je pense qu'elles ont raison. Mais elles ne savent pas à quel point elles ont raison. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert très tardivement, en lisant de la biologie, en lisant de l'éthologie, en lisant de... etc. Et ça ne passe pas pour le moment, enfin, c'est pas connu des milieux militants. Donc je pense que ce serait intéressant que les milieux militants s'approprient tous ces savoirs-là, pour comprendre à la fois l'énormité du problème qui se présente, et en même temps, comme disait Marx, on n'est pas révolutionnaire en croyant qu'on peut tout faire. Il se moquait des jeunes hegéliens qui se vivaient révolutionnaires, et il disait, c'est un peu comme le type qui est en train de se noyer, et qui dit, non, il n'y a aucun problème, et qui se tire les cheveux pour essayer de se sortir de l'eau. Enfin, donc il se moquait du romantisme, du volontarisme des jeunes hegéliens, et eux, lui, il disait, pour moi, c'est le plus grand révolutionnaire de l'histoire, quand même, Marx. C'est lui qui a donné des clés extraordinaires sur lesquelles plein de mouvements d'émancipation se sont basés. Et Marx disait, il faut connaître le réel, il faut affronter le mur du réel pour le changer. Il faut surtout pas faire comme si ça n'existait pas.
Je vais clôturer. Je vais clôturer quand même avec un dernier petit extrait parce qu'en fait, il est magistral quand même et il est politique en plus. Donc c'est vraiment, je pense que c'est bien de le donner. Et après, on prend quelques questions, même si on n'aura peut-être pas autant de temps qu'on aurait voulu pour les questions. Mais tu dis, j'ai aussi rappelé que les grands butoirs pour l'action ne sont pas directement modifiables, mais peuvent néanmoins être contournés par des moyens artefactuels, techniques. La technique et le savoir rendent possible une certaine émancipation par rapport à la biologie de l'espèce. De même que l'avion nous a permis de voler alors que nous sommes dépourvus d'ailes, ou que les sous-marins nous permettent de vivre sous l'eau alors que nous n'avons pas de branchies, les méthodes de contraception ou les techniques d'avortement ont permis de contrôler et de limiter la reproduction et ainsi de dissocier les rapports sexuels de la procréation. La césarienne a permis d'accoucher en diminuant les risques de décès de l'enfant ou de la mère, la péridurale d'accoucher sans douleur, le biberon et les laits artificiels ont donné la possibilité de desserrer le lien entre la mère et l'enfant, c'est ce que tu disais, et d'autoriser un lien entre le père ou toute autre personne et l'enfant. Et l'idée d'un utérus artificiel rend imaginable à l'avenir une gestation extracorporelle qui serait susceptible de libérer les femmes de leur fonction naturelle initiale, c'est dire à quel point les choses ne sont jamais figées pour une espèce aussi culturelle que l'est l'espèce humaine. Toutefois, plus on touche aux fondamentaux de la biologie de l'espèce et plus il est difficile d'inventer et de fabriquer des artefacts compensateurs ou émancipateurs. Les exemples de l'avion et du sous-marin nous montre que nos limites ne sont dépassables que temporairement, souvent par très peu d'individus. Quel pourcentage de la population prend régulièrement l'avion ou pire un sous-marin ? Et que les artefacts inventés n'ont jamais la stabilité et la praticité des ailes ou des branchies. Pour qu'une possibilité technique ait des conséquences sociales générales et durables sur le réarrangement des rapports sociaux fondamentaux, il faut qu'elle soit de diffusion universelle. Sinon, quelques petites poches d'humanité s'émanciperont, tandis que l'écrasante majorité des individus et des sociétés poursuivront leur développement sur les mêmes rails, sans dévier de leur route. Comprendre ce qui a été et reste au cœur de la fabrique de la domination masculine, c'est pouvoir développer l'imagination pour mettre en place les contrepoids, les contrefeux ou les contreforces souhaitées et poser les aiguillages autrement. Alors, combien de temps il nous reste ? Allez, on a encore une bonne vingtaine de minutes pour les questions, s'il y en a. Et on peut faire passer un micro.
Que voici. Bonjour. Merci d'être venu, c'est un grand plaisir de vous avoir. Merci au Cachalot. J'ai lu votre livre et du coup, vous parlez notamment de l'essai de Lalande sur l'accumulation culturelle et sur l'effet rétroactif du coup de la culture. Et je me demandais à quel point ce serait imaginable que finalement, est-ce que les luttes d'aujourd'hui ne sont pas une rétroaction des expériences passées qu'on a eues ? Et à quel point, du coup, on est véritablement déterminé ou non sur les choses à faire.
Alors, en fait, ce que vous évoquez de Lalande, qui est un grand biologiste évolutionniste, c'est un courant en biologie évolutive qui a montré que, en fait, la production culturelle, particulièrement forte dans l'espèce humaine, a des conséquences en retour sur la biologie. Alors, c'est pas des choses qui sont comme ça. Enfin, on n'a pas pris une tête de plus, trois bras, etc. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Par exemple, les choses les plus étudiées, c'est par exemple le fait que quand on a inventé le feu, on va dire, maîtrisé d'abord du feu qui se produisait naturellement par des foudres, et puis après, on a appris des techniques pour produire du feu, les gens ont commencé à mourir. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez du feu de bois, en fait, l'organisme n'est pas fait pour respirer autour d'un feu de bois. Aujourd'hui, on ne meurt pas de ça, même s'il ne faut pas trop non plus avoir de fumée de bois. Et donc, il y a eu une mutation génétique dans l'espèce humaine qui a été repérée pour s'adapter à la production de feu et à la fumée de bois. Voilà. Par exemple, un exemple qui montre comment une production culturelle vient en retour modifier la biologie de l'espèce. De la même façon pour l'histoire lactose-lactase. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
On a... Bernard. Ah. Il y a plusieurs questions.
Ben ouais, mais non. Bon, lactose-lactase, voilà. Il y a des peuples qui... on n'est pas fait, au départ, dans l'humanité, pour digérer le lait. Après sevrage. Normalement, personne ne devrait supporter, si on était dans le même état que les premiers Homo sapiens, de digérer du lait. Et il y a des populations entières, plutôt en Asie, qui sont allergiques totalement aux produits laitiers. Et nous, alors surtout, des peuples qui ont des pratiques depuis très longtemps d'élevage, où les gens se sont mis à boire du lait, c'est un moyen central pour supporter. Ils ont dû avoir plein d'indigestion pendant longtemps, et puis il y a eu une mutation. Ce qui fait que beaucoup de gens peuvent manger du fromage, boire du lait, etc. sur Terre. On sait très bien qu'il y a de la variation, parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui peuvent absolument pas boire une goutte de lait. Voilà, ou alors ça provoque des des troubles digestifs importants, etc. Bon. Donc, il y a eu une enzyme qui a été produite, qui s'appelle la lactase, qui permet de digérer le lactose, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la langue dit la culture peut avoir des effets en retour sur la biologie. Donc, voilà, mais c'est à une échelle tellement longue que c'est pas par là qu'on arrivera à avoir une émancipation, par exemple sur les rapports de domination homme-femme, sur les rapports de domination plus généralement politiques, économiques, etc. Voilà. Après, on peut très bien, il y a des mammifères hein, qui ont la capacité de parthénogénèse, c'est-à-dire de produire, les femelles peuvent produire des petits toutes seules. Bon. Il n'est pas dit que ça évolue un jour. Ben là, ça changerait radicalement tout.
Les podcasts Sciences Humaines de Radio Kipik. Rencontres, conférences, débats, tables rondes, entretiens, les problématiques de société avec les chercheurs, eux, invités en Ariège.
En fait, moi, à t'écouter, j'ai plutôt l'impression qu'au contraire, plus on se compare avec les espèces animales, plus on s'en sépare, notamment parce que on a quelque chose qui est radicalement différent. Tu as traité ça sous l'appellation du langage symbolique, mais c'est la capacité transcendantale, c'est-à-dire spécifiquement d'agir dans une fin qui est même orientée vers la survie de l'espèce. Par exemple, quand tu prends, enfin, typiquement, l'exemple par défaut, c'est la capacité de l'espèce humaine à agir contrairement à sa survie, notamment ce qu'on fait avec la planète. On agit très très consciemment dans un sens qui est absolument contraire à la survie. Et par exemple, quand tu parles de l'électricité, dans une optique hyacienne où il n'y a pas cette distinction entre société et individu, on pourrait complètement dépasser le rapport de domination entre les âges par une appréhension beaucoup plus globalisée de ce que c'est que l'individu qui finalement se font et acceptent complètement la nécessité de la société, la nécessité de l'altérité pour exister en tant qu'être. Et par exemple, est-ce que finalement, parmi les animaux, ces rapports des femelles qui s'occupent des petits vécus comme une domination, est-ce que c'est pas précisément parce qu'on a cette capacité transcendantale qui dépasse un peu le pur symbolique dont tu as parlé à propos des abeilles par rapport au fait qu'elles puissent rappeler un lieu et un endroit où il y a de la nourriture, mais c'est encore lié à la survie. Alors que nous, spécifiquement, on peut dépasser ces considérations-là. Est-ce que, pour moi, tout rapport de domination humain vient précisément de cette capacité qu'on a à s'occuper de tout un tas d'autres choses que notre simple survie et qui fait qu'on utilise à très mauvaise escient, notamment dans des rapports de domination de femmes.
Donc, je réponds par oui ou par non, c'est ça? Je sens une pression pour que je réponde rapidement à une question complexe. Il ne faut pas surestimer les capacités de l'espèce humaine et sa spécificité, notamment en termes de capacité d'adaptation, etc. Par exemple, les bactéries existent depuis beaucoup plus longtemps que nous, elles sont parfaitement adaptées. Alors, j'ai bien compris que dans la manière dont tu poses, si tu veux tutoyer, je te dis non, il n'y a pas de problème. Ce serait nos capacités symboliques qui nous mettraient en fait dans le mur. C'est ça qui nous amènerait à la domination. Alors, ça, non, on ne peut pas dire ça. Parce que les rapports de domination, par exemple, l'effet hiérarchique, je n'ai pas évoqué ça, mais l'effet hiérarchique existe dans très grand nombre de sociétés non humaines qui n'ont pas de capacité culturelle symbolique. Les rapports de dominance, comme disent les éthologues, la société polygame des gorilles, c'est un mâle qui domine, et puis vous avez en dessous, il y a un truc assez linéaire, chacun reconnaît l'autre en fonction de sa position dans la hiérarchie, ce qui est assez incroyable, parce que ça suppose quand même de bien connaître l'état des rapports de force dans le groupe. Ils n'ont pas plus de culture que ça. Quoi. Donc, ces phénomènes de domination, ça a été bien étudié par Franz De Waal, il y a de la protopolitique chez les chimpanzés, hein, avec un mâle alpha qui n'est pas du tout une grosse brute. Loeb, là, c'est un fin diplomate, un fin négociateur. Il fait comme les présidents des États-Unis, comme dit Franz De Waal, c'est-à-dire que quand il veut maintenir son pouvoir, il va jouer avec les petits. Allez, quand tu es gentil avec les petits. Il va épouiller les autres. Voilà, c'est un peu Macron. Et puis il y en a d'autres qui sont là, qui attendent leur tour, qui font des alliances de la même façon, pour avoir des amis, etc. Et dès qu'ils peuvent, boum, ils dégomment celui qui a la position de l'alpha. Et après, ça se recompose, la hiérarchie se recompose. Et ça, c'est fait pas avec une culture énorme. Donc, non, la culture ne fait que prolonger des choses qui existent déjà dans des structures sociales de mammifères, notamment primates. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Je
ne
vais pas répondre. Je laisse la parole.
Après, la capacité de transcendance, elle est très récente. Si on prend l'idée de transcendance au sens des grandes religions monothéistes, c'est très récent dans l'histoire.
Transcendantale n'est pas religieusement, c'est simplement la capacité à s'arracher à l'ici et maintenant quand un
jour justement d'arriver. Oui, d'accord. Alors disons ça comme ça, c'est mieux.
Oui, mais en fait, c'est transcendantal. Mais c'est un abus de langage moderne. Pardon. C'est un abus de langage moderne, mais le sens du transcendant, à la base, ça, c'est pas connoté forcément. Voilà.
Ce qui s'oppose à l'humain.
Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui s'oppose à l'humain.
Oui, non, mais ça, je sais. c'est juste que pour être sûr, parce que quand on dit transcendant. Il y a des connotations religieuses, etc. Donc il vaut mieux parler de capacité symbolique, d'arrachement à la situation présente, etc. C'est ça, oui. Mais c'est pas ça qui nous met sur une voie de la domination, non. Non, la domination précède l'humanité, et voilà, autour de nous, nous avons plein d'espèces qui sont extrêmement hiérarchiques. Les premiers qui ont travaillé sur la hiérarchie, c'est des gens qui travaillaient sur les poulaillers. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le pecking order, c'est-à-dire qu'ils donnent des coups de bec. Des coups de bec. Et une fois qu'ils se sont. Alors, c'est un bordel monstre, hein, un poulailler, tant que la hiérarchie n'est pas établie. Ils se donnent tous des coups de bec, et puis, on sait, au bout d'un moment, les ordres, les rangs sont fixés. Et là, vous avez la bête. Et vous avez le mâle dominant, il arrive devant un truc à manger, les autres, ils se mettent de côté, ils nous laissent manger d'abord, une fois qu'il est parti, bon, ils reviennent manger, etc. Tout est fait comme ça. Ça dure à peu près 3-4 semaines. Donc si on avait ce genre d'instabilité institutionnelle, pour aérologie, toutes les 3 semaines, c'est un peu pénible. Mais voilà, dans un poulailler, c'est un peu ça. Et si on réintroduit, si on enlève un cas, où, je sais pas, il y a un renard qui vient bouffer une poule, etc., alors ça se rejoue. Il y a une femme, et tous les gens qui ont des poulaillers savent que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est arrivé très tardivement scientifiquement, mais on a découvert ça. Bon, ben, les poules n'ont pas une culture extraordinaire aussi, et pourtant il y a des rapports de domination, et la plupart des éthologues ont comme hypothèse que s'il y a de la hiérarchie, c'est pour stabiliser un ordre.
Donc si j'ai bien compris, vous faites quand même une association entre hiérarchie et domination, alors qu'il y a domination, il y a quand même une notion de subjectif du vécu du dominé, et bon. C'est... D'accord. Alors oui, alors c'est là où on a les différences.
Non, en fait, alors je voulais juste rectifier ce que vous avez dit avant sur Elias. Elias, il a, en plus j'ai publié le bouquin, la traduction du bouquin, je peux vous le garantir, tout un chapitre d'un bouquin qui s'appelle Au-delà de Freud, qui porte sur la domination parentale. Donc pour lui, le rapport parent-enfant est clairement un rapport de domination. Et domination, est-ce que ça suppose que le dominé soit conscient de la domination? Pas du tout. C'est même la base d'une partie de théorie de la domination, type Bourdieu, etc. C'est que beaucoup de gens trouvent normal d'être dominé dans plein de situations, malheureusement. Qui disent, bah oui, mais c'est normal. Moi, j'ai fait des entretiens auprès de jeunes ouvriers non qualifiés qui disaient, bah, c'est normal que je gagne ce que je gagne, parce que j'étais mauvais à l'école, j'étais nul, etc. On les a persuadés progressivement qu'il était normal, alors qu'ils font des tâches productives sales, difficiles, ou dangereuses parfois, etc., et utiles à la collectivité, on les a persuadés que c'était normal qu'ils gagnent une misère. Donc nous, vous pouvez totalement dominer et pas du tout être conscient de la domination.
Merci beaucoup. On a le temps pour encore une autre question.
Merci. Bonjour. Du coup, j'ai deux questions, désolée. Déjà, j'en ai une première, c'est le postulat de départ, selon lequel la sociologie, donc, est quand même une science assez récente.
Éthologie, 70 ans. Sciences sociales, environ 150 ans.
Oui, voilà.
Bah, quand même.
Mais du coup, à l'origine, il y a Auguste Comte et Quetelet. Et Quetelet, quand même, son point de départ de la sociologie à Vienne, c'est de dégager des grandes lois sociales, de faire de la physique sociale.
Oui.
Donc, je pense que du coup, j'ai du mal à comprendre le postulat de départ, comme quoi la sociologie ne ferait pas des lois. Ne dégagerait pas de lois.
Je vous réponds juste rapidement là-dessus, parce que c'est rapide. Je le rappelle dans le rap, effectivement, les premiers sociologues, Comte, Durkheim et d'autres, on dit qu'il fallait formuler des lois. Et on commençait à le faire. Puis ça a été abandonné, et nous avons aujourd'hui un métier composé de gens qui ne croient plus du tout à la possibilité de formuler des lois. Voilà. Mais bien sûr qu'ils ont existé. Alors il faut savoir que Comte était un polytechnicien, que Durkheim, c'était un grand lecteur de biologie, etc. Et il critique les historiens de son époque en disant « Mais vous ne cherchez pas de loi, vous ne faites que des histoires descriptives de telle ou telle situation, vous racontez des événements, etc. » Mais en fait, ce n'est pas ça la science. La science, c'est former des lois, et vous n'avez jamais appris ce que c'était qu'une loi, parce que vous n'avez jamais eu de formation à l'esprit scientifique. Il est très dur avec les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Durkheim qui a gagné. La majorité des gens pensent que les lois, je vous assure vraiment, que les gens pensent que c'est très naïf de vouloir formuler des lois aujourd'hui.
Mais, du coup, il me semble que ça, justement, ça vient un peu à l'encontre d'Auguste Comte, avec le positivisme, qui est l'idée selon laquelle ce qu'on observe serait le vrai. C'est peut-être, enfin, le débat que vous mettez, du coup, en exergue, là, dans...
Je vous dis que ça a été oublié.
Bon, voilà. Ok. Et ma deuxième question, donc je trouve ça super intéressant, parce que vous dites, du coup, qu'il y aurait une domination ontologique des enfants par les adultes, du fait de la dépendance ontologique, etc. Vous avez parlé également de l'inceste, donc vous avez parlé d'inceste anthropologique, donc celui qui est construit théoriquement, avec Lévi-Strauss et compagnie, et Freud avant, et derrière, d'inceste effectif, donc concrètement, le fait de violer ses enfants, qui est en fait un... Donc ça, c'est Ducy qui le dit, hein, qui est en fait la chose qu'on retrouve que spécifiquement chez l'humain. L'inceste n'existe pas dans d'autres espèces quand il s'agit de violer ses petits. L'idée du cœur et de la domination, est-ce que ce serait pas quelque chose de simplement humain ? Faire l'analogie entre les deux, le fait de prendre soin qui permettrait de dominer. Et du coup, elle l'a problématisé, l'inceste, comme étant le berceau des dominations.
Alors, j'ai lu le livre de Lucie après l'écriture de mon bouquin. Malheureusement, j'aurais pu le lire avant. Je vous avoue qu'il y a juste l'évocation de la question de l'infanticide, parce que je l'ai trouvé chez les biologistes. Ils montraient très bien que l'infanticide était un truc qui existait dans différentes espèces, hein, et pas que l'espèce humaine. Alors je pense qu'il y a un défaut de raisonnement chez Lucie, mais évidemment, elle pointe quelque chose de très important. Bon, elle dit qu'il y a à peu près 10%, ces chiffres ne sont pas terribles parce qu'elle mélange les choses quand même, hein, mais bon, soyons généreux, elle pointe quelque chose de très important, et le fait que, sans doute, il y a plus là où il y a le plus d'inceste, paradoxalement, hein, alors qu'on a longtemps soutenu que c'était une spécificité humaine, là où il y a sans doute le plus d'inceste, c'est chez les humains. C'est beaucoup plus régulé chez les espèces animales non humaines. Alors pourquoi ? Ça, il faudrait regarder de près. Mais par exemple, tout ce qui est inceste tout à fait officiel, par exemple chez les pharaons, et c'est pas les seuls, c'est là, du coup, pour le coup, des convergences culturelles dans plein d'endroits, c'est souvent des élites, historiquement, qui se sont autorisées l'inceste. Et pourquoi ? Parce que, par exemple, les royautés sacrées, c'est une catégorie de pouvoir dans l'histoire de l'humanité, il y a des royautés sacrées, le roi, il est tellement rare qu'il a le droit de faire des choses que personne n'a le droit de faire, et notamment d'être incestueux. Il peut être incestueux, il peut tuer, il est au-dessus des lois, des règles générales, etc. Donc ça, c'est, on peut dire, une perversion humaine, d'une certaine façon, c'est-à-dire que créer une différence entre élite et le commun des mortels, on va dire, à créer des conditions pour permettre beaucoup plus l'inceste.
Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet www.radiokipik.org.